Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Il y a un peu plus de 70 ans, le 27 janvier 1945, vers 15h, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le monde basculait alors dans l'horreur. Et pour désigner ce qui ne portait jusqu'alors pas de nom, il fallut inventer celui de la Shoah. Un peu moins de 70 ans plus tard, en 2002, les nations démocratiques, faisant de cette date la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, choisissaient d'inscrire ce 27 janvier dans la mémoire de l'humanité. Une journée non pour perpétuer la mémoire de l'horreur, mais pour apprendre aux jeunes générations à rester vigilants, à défendre les valeurs démocratiques et à combattre l'intolérance. C'est ainsi que chaque 27 janvier, à Toulouse, comme en bien d'autres lieux, écoliers, collégiens, lycéens, membres d'associations institutionnelles, politiques, se retrouvent square Boulingrin autour du mémorial de la Shoah pour une cérémonie commémorative organisée depuis quelques années par Hubert Strouk, coordinateur régional du mémorial de la Shoah. La mémoire des justes, une rediffusion du 27 janvier 2016.
Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes.
Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes.
Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille.
Ils font partie du genre humain.
Ils sont nos frères comme tant d'autres.
Monseigneur Saliège.
Elle allait à l'école au village normand. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois.
Josiane, quoi,
je vous ai vu très émue et vous avez repris les paroles du chant.
Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Comment voulez-vous qu'on ne peut pas ? Il a écrit une chanson merveilleuse et réelle. Réel. Quand vous pensez des petits enfants innocents tout simplement parce qu'ils sont juifs, c'est horrible. Comment voulez-vous qu'on puisse... Que ça fait pas mal. Et moi, à cette époque-là, heureusement que je vivais en Afrique du Nord, mais sinon j'aurais été déportée comme tous les autres enfants. Je serais pas là. Il a essayé, Claire, de nous supprimer complètement. Mais nous, les pieds noirs, on est là. Et on fait repartir.
Mais aujourd'hui, j'ai vraiment été frappée parce que au-delà de la communauté juive, c'était une célébration, une commémoration qui avait une valeur universelle.
Tout à fait. Une valeur humaine, universelle, c'est très difficile. On n'est pas à l'abri.
D'où l'importance de la transmission.
Tout à fait. J'ai trois enfants, trois fils. Bon, ça va, ils ne sont pas là, ils travaillent. Bon, j'ai un qui est prof, l'autre, enfin bon, ils travaillent, ils ne sont pas là. Mais mes petites filles, je leur apprends, mais ça n'accroche pas. Parce qu'on ne leur a pas appris tout petit. Il avait raison. Quand ils nous racontaient les autres, on ne les croyait pas. Malheureusement. C'est malheureux, mais c'est bien que les écoles, c'est beau. Il serait temps que l'école prenne en charge cette jeunesse. Ça fait 71 ans. Ils vont dire, il faut oublier. Il faut pardonner. Non, moi, je ne pardonne pas. Je ne peux pas. Pour rien. Si on avait, nous, tué d'autres personnes, si on avait... Mais on ne fait rien. On veut être tranquille. Regardez, ça continue. Regardez à Paris, regardez le professeur d'hébreu qui allait travailler. Tout ça parce qu'il avait une kippa. Où on va ? Où on va ? Moi, c'est fini.
Là, de nombreux jeunes portaient la kippa aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur ?
Ah oui, mais attendez, il y a les profs, il y a du monde, on est surveillés, vous inquiétez pas, ils sont pas là.
Allez, et faites savoir, faites savoir. Au revoir.
Mesdames, messieurs, bonjour.
au nom du mémorial de la Shoah, nous vous remercions d'être là, nous vous remercions d'être présents. Et la cérémonie va commencer. La cérémonie qui sera dirigée par Hubert Strouk, coordinateur régional du mémorial de la Shoah.
Avec le réseau des lieux de mémoire de la Shoah qui organise partout en France cette cérémonie, nous voilà réunis aujourd'hui pour la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Il y a 71 ans, les troupes soviétiques découvraient le complexe concentrationnaire d'Auschwitz et l'horreur du projet nazi. 1 100 000 personnes y avaient été assassinées, dont 1 million de juifs et des milliers de tziganes. Traqués, arrêtés, spoliés, déportés et assassinés, la destruction des juifs d'Europe, comme le soulignait l'historien Raoul Hilberg, était bien un crime intentionnel, planifié, méthodiquement, industriellement exécuté. Cette haine des juifs trouvait son origine dans cette passion antisémite qui avait bercé tant d'individus sur le continent européen. Les juifs étaient devenus un groupe cible, stigmatisé, animalisé, exclu par des législations matrices de nouvelles persécutions. Ce n'est pas nier la singularité de la Shoah que dire que d'autres génocides eurent lieu au XXe siècle. Le juriste Raphaël Lemkin ne s'était pas trompé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il forgea ce terme. Il y avait bien sûr les populations juives, mais il y avait aussi ces milliers.
Parce que ce matin, cette célébration et cette commémoration, début 2016, a pris une dimension peut-être tout autre, peut-être différente encore que celle des années précédentes, vu au regard de l'année qui vient de s'écouler.
Mais je crois qu'il y avait effectivement une dimension différente. Et au-delà des élèves qui étaient venus quand même en nombre, on avait une centaine d'élèves des écoles primaires et du secondaire, j'ai vu qu'il y avait un public qui était mobilisé, à la fois pour se rappeler de l'histoire, le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis, la Shoah, et en même temps, effectivement, profiter, c'est ce qu'on a vu dans les interventions des personnes politiques ou bien des institutionnels ou encore des associations. Je crois qu'il y a une volonté de trouver à travers ces commémorations des moments de fraternité, des moments où on se retrouve pour se souvenir ensemble et surtout pour réfléchir à notre présent, lutter contre les discours de haine, lutter contre des actes aujourd'hui qui sont racistes, lutter contre toutes les formes de discrimination. Et je crois qu'à travers les discours que j'ai pu entendre, il y avait là véritablement un souci commun.
Un souci commun, un souci de la transmission. Alors c'est le fondement du mémorial. Mais là, il y avait de nombreux jeunes ce matin qui ont travaillé avec leurs enseignants et qui étaient là et qui ont peut-être découvert, oui, je crois que découvert pour certains d'entre eux.
Je crois qu'ils ont découvert, je crois surtout qu'il y a eu un formidable travail en amont de la part de leurs enseignants. Souvent, on ne se rend pas compte dans une cérémonie que pour préparer des enfants sur des textes aussi importants historiquement, sur des chansons qui ont une portée particulièrement importante, eh bien, il y a eu un travail en amont. Et si on œuvre aujourd'hui toujours sur des fondements historiques d'un point de vue éducatif, si on œuvre, c'est véritablement pour ces jeunes, pour ces générations, pour qu'elles puissent grandir. Et dans ce contexte, vous l'avez souligné, c'est peut-être encore plus d'actualité pour qu'elles puissent grandir dans un esprit de paix, de tolérance, de respect de l'autre et de laïcité. Je crois que le mémorial de la Shoah, avec tous les acteurs qui étaient là ce matin, est très attaché à défendre ces principes-là qui sont aussi au fondement de la République.
Et des fondements, des valeurs de fraternité, comme nombre d'intervenants l'ont souligné également.
Nombre d'intervenants ont souligné que liberté, égalité, on était dans un état de droit, il y avait des lois, il y avait de quoi garantir ces deux valeurs très fortes de notre devise. La fraternité, c'était plus compliqué. Et donc, je crois qu'une commémoration telle qu'elle a été envisagée ce matin avec les jeunes, avec les institutionnels, avec les représentants des collectivités territoriales, c'est un moment de fraternité, c'est un moment de communion, c'est un moment où on se retrouve ensemble pour essayer de réfléchir aujourd'hui à ce que devient notre société et à certains maux qui la rongent.
Thank you.
transmettre, ériger un rempart contre l'oubli pour éduquer contre la haine de l'autre et l'intolérance, c'est la mission essentielle du mémorial de la Shoah et de nombre d'enseignants qui, dans notre région, s'attachent plus particulièrement à faire reconnaître le destin de ces hommes et de ces femmes, de ces justes également, qui vivaient là, sur notre petit coin de terre. Cette mission, cette responsabilité, c'est celle notamment de Denis Beau, professeur d'histoire à Toulouse et qui, il y a quelques années, faisait paraître une biographie d'Alfred Nakache.
Alors ça vient d'un projet pédagogique, je suis enseignant, et donc c'était essayer de savoir comment les élèves pouvaient être intéressés par l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que le sport les intéresse beaucoup, donc je me suis dit pourquoi ne pas lier histoire et sport. Et certains élèves m'ont dit qu'ils allaient se baigner à la piscine Nakache et ils m'ont demandé qui était ce Nakache. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler là-dessus. Et j'ai à cette occasion rencontré donc des gens de la famille. Ils sont venus aussi témoigner devant les élèves et certains m'ont dit, devant des membres de la famille, pourquoi est-ce que vous n'écririez pas un livre ? Parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait à Toulouse sur ce personnage. Il y a la piscine, il y a d'autres piscines Nakache, il y en a une notamment à Paris qui a ouvert il y a quelques mois. Pourquoi est-ce que vous travailleriez pas là-dessus? J'ai dit, ben voilà, banco, ben, je vais essayer donc de travailler. Donc ils m'ont ouvert les archives familiales, j'ai été travailler sur des archives départementales à Paris, je trouvais plein de choses sur Alfred Nakache, et donc voilà, c'est un peu, à l'origine, c'est un projet pédagogique qui m'a conduit vers la famille, vers ce personnage assez au destin exceptionnel, assez fabuleux, quoi, et vers l'écriture aussi. C'est un personnage très secret. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des informations, notamment sur la période de la déportation. Il l'a peu évoqué. C'était quelqu'un qui s'isolait de temps en temps lors de repas familiaux ou autres. Il disait pas grand-chose, même lorsqu'il y avait des questions de la part de ses neveux, nièces, etc. C'était vraiment un mur qu'ils avaient devant eux. Et en même temps, il y avait une autre partie du personnage intéressante, notamment les gens qui avaient nagé avec lui, qui disaient qu'il était quelqu'un de très... très joyeux, très, très guilleret, qui faisait des blagues, etc. Qui faisait même des blagues juives. Sur l'humour juif, etc., et qui, de l'autodérision, donc un personnage un peu, voilà, qui a une double, pas une double personnalité, mais plusieurs facettes, mais qui effectivement n'évoquait pas ou très peu donc le drame qu'il avait vécu, et qui voulait malgré tout être très généreux avec les gens qu'il a formés dans la natation, ou les élèves qu'il a formés lorsqu'il était dans l'éducation nationale, puisqu'il est resté jusqu'en les années 70, donc voilà, quelqu'un qui s'est mis au service des autres, peut-être pour compenser tout ce qu'il avait subi pendant les années d'occupation, les années noires en fait. Si on fait une lecture psychanalytique, c'est qu'il perd sa fille, et donc il n'a jamais eu d'autres enfants, il perd sa fille à Auschwitz, il n'a jamais eu d'autres enfants, et donc en fait on sent qu'il a mis tout son engagement et son poids sur justement la reconnaissance qu'il avait d'autres enfants qui étaient en fait ses élèves, il était vraiment à leur service. J'ai pu rencontrer donc des gens qu'il avait formés, qui aujourd'hui sont des enseignants de sport ou des nageurs, et qui m'ont tous confirmé ça, c'est justement cette idée de générosité extrême qu'il avait. Il comptait pas ses heures, il était toujours au service en fait des plus jeunes, ou même quelquefois il a animé des clubs un peu pour vétérans, et même pour des vétérans, il donnait encore quelques conseils même au soir de sa vie, donc une grande générosité.
Transmettre, enseigner cette mémoire de la Shoah, c'est aussi l'une des missions du réalisateur Francis Fourcou, qui au soir de ce 27 janvier 2016 présentait au cinéma Le Cratère à Toulouse son film Laurette 1942.
C'est l'été 1942. Laurette Monet a 19 ans. Elle est protestante, étudiante en théologie à Montpellier, et elle décide de s'engager. Un engagement audacieux alors que la France occupée de Vichy, aux lois républicaines bafouées, à l'antisémitisme affirmé, interne jour après jour des milliers de femmes et d'hommes. Juifs, républicains espagnols, gens du voyage, opposants politiques de tous bords. Cet été 1942 où tout bascule, cet été de la rafle du Veldiv, des rafles généralisées de la Gestapo et de la police française, cet été des grandes déportations, Laurette, qui n'est pas majeure, devient équipière de la CIMADE, une organisation créée par des protestants pour aider et protéger les plus démunis dans les 200 camps français. La suite, Laurette arrive au Récébédou, près de Toulouse, et découvre la condition des internés déportés de l'Europe asservie. Torture, des interminables appels, dysenterie, typhoïde, gale, poux, malnutrition. Cet été-là, lucide, avec bravoure, face à ces antichambres de la solution finale, la foi protestante de Laurette bascule dans ce qui sera sa résistance. Les comédiennes et comédiens Philippe Cobert, Daniel Catala, Maurice Sarrazin, Francis Azéma, Diane Launay ou Corinne Mariotto seront là. Le peintre Ernest Pignon Ernest apportera son inestimable concours pour affiches et décors. Des témoins exceptionnels vous confieront le chemin qui fut le leur. Angèle Bettini, qui avec de nombreux camarades, le 5 novembre 1940, jeta des tracts sur le cortège de Pétain en visite à Toulouse et fut internée 4 ans. Edith Moscovitch, internée avec ses 8 frères et sœurs au Récébédou, enfant caché, sauvé par un geste d'humanité. Des tziganes, des républicains espagnols, des femmes vous diront ce qu'il advint cet été-là, où tant et tant de gens périrent. Voilà le récit hors du commun de ce film. L'histoire d'un cœur qui bat, celui de Laurette.
C'est aussi l'une des responsabilités de Marie-Thérèse Dufault, qui, il y a quelques années, consacrait sa thèse d'histoire à Mgr de Solages, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, de 1931 à 1964, et qui, pendant les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, s'engagea lui aussi, aux côtés de Mgr Saliège ou de Mgr Théas, dans une résistance intellectuelle et spirituelle.
Il aide des réfugiés et des juifs. Donc il a inscrit plus d'étudiants juifs que ne le permettait le numerus clausus. Et il embauche certaines personnes à l'Institut catholique, par exemple à la bibliothèque, comme employé surnuméraire avec Mgr Martimor. Ils organisent aussi des conférences. En fait, il permet aux personnes qui rencontraient justement des problèmes à ce moment-là de pouvoir continuer leurs travaux quand ils viennent aussi étudier à la bibliothèque ou... Et il aide aussi à leur convoyage avec Edmond Michelet. Et dans ses discours aussi, il prend vraiment position contre le régime de Vichy. Et il fait des discours sur la vérité en s'opposant à la propagande. Il rappelle dans un hommage à Bergson qu'on ne peut pas condamner un homme d'après la race et qu'il a été un honneur pour la France. Donc c'est toujours à travers à la fois ses travaux et puis ses actions qu'il prend position. Il avait fait des faux papiers de Vladimir Jankélévitch aussi, enfin c'est vraiment...
Donc l'Institut catholique devient, si je peux m'exprimer ainsi, un repère de la résistance.
Oui, il y a Georges Friedman, Jean Cassou... qui fréquentent l'établissement. Il y a aussi Clara Malraux. Donc vraiment à la bibliothèque, mais aussi en contact avec le recteur, puisque certains viennent même suivre les cours de Mgr de Solages après avoir discuté avec lui de Teilhard de Chardin. Et Donc c'est vrai que ça devient un des pôles de la résistance. Puis aussi, comme Monseigneur de Soulages avait été averti par son cousin l'abbé René de Noroy de ce qui se passait en Allemagne, il a su très vite la situation, enfin, par rapport à la montée du nazisme, et après mettre en place cet espace pour les personnes. Et il a aussi aidé à trouver des emplois et des cachettes à d'autres personnes. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il ne se retrouvait moins dans l'établissement exactement. Mais il y a vraiment eu cette aide-là, oui.
Donc c'est un homme qui prend des risques, qui ose prendre des risques.
Oui, et il avait conscience du danger. D'ailleurs, il avait préparé une lettre au cas où il serait arrêté, puisque son arrestation avait été prévue déjà. Il était recherché quand même.
Enfin, il était sur les listes.
Voilà. Et même il avait eu des menaces de mort. Il y avait une lettre anonyme où quelqu'un le menaçait comme ça. Donc c'est vrai qu'il avait conscience du danger, mais ça le dérangeait pas de continuer son action.
Une action qu'il mène en tant que chrétien, bien sûr, mais peut-être aussi en tant que catholique français.
Oui. Mais en fait, c'est déjà... il rappelle que l'Évangile est en opposition, par le respect de la personne humaine, avec toutes les lois antisémites ou le régime nazi. Et c'est vrai qu'il se présente vraiment, par rapport... à la situation en France, où il s'oppose à Pétain. Comme quelqu'un lui disait que Pétain était un homme providentiel, il avait dit que Judas aussi était un homme providentiel. Donc en fait, c'était vraiment, oui, par rapport à la situation. Même, il y a un moment, il y avait eu l'hôpital complémentaire à l'Institut catholique. Et pour demander que les locaux lui soient rendus, il était allé directement à Vichy. Et c'était à ce moment-là qu'il avait prononcé cette phrase. Et il avait dit aussi qu'il valait mieux... un pays avec des francs-maçons, qu'une France défaite, gouvernée. Enfin, c'était vraiment par rapport à la situation, oui. Il s'opposait au régime de Vichy et il était convaincu que là, c'était un déshonneur pour la France de se retrouver dans cette situation.
La mémoire n'a de sens que si elle prend ancrage dans le présent, nous dit Hubert Strouk, avec lequel nous refermerons aujourd'hui ce reportage. Mémorial de la Shoah, douleur des survivants, responsabilité des vivants.
La mémoire n'a de sens que si elle prend ancrage dans le présent, histoire de nous aider à repérer les invariants de la haine de l'autre, les contenus du discours de rejet qui mènent trop souvent au passage à l'acte, l'antisémitisme. Et toutes les formes de racisme ne peuvent avoir leur place dans la République. Aucun individu ne devrait au XXIe siècle être inquiété, menacé, attaqué parce qu'il manifeste une quelconque appartenance. C'est en pensant aux crimes de Toulouse, de Montauban, de Paris et bien d'autres qu'il nous faut engager un combat intellectuel, éducatif, pédagogique, sans relâche. Nous le faisons pour nous tous, mais surtout pour ces nouvelles générations que nous espérons voir grandir dans la paix, le respect de l'autre, l'attachement aux principes de liberté et de laïcité. Le mémorial de la Shoah, fidèle à son histoire et dans le cadre de ses missions, poursuivra sans relâche son travail, éduquer pour faire reculer la barbarie et les discours de haine. Thank you.
Mm-hmm.